Écoutez-moi très attentivement, parce que c'est une parole qui est destinée à quelqu'un en particulier. Ne sois pas distrait. Il se peut même que simplement la lecture de cette parole suffit, que ma prédication sera un accessoire. Mais ça, ça peut être pour toi. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Opra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Est-ce que tu peux dire à ton voisin : L'Éternel est avec toi ? Dis-lui encore : L'Éternel est avec toi. Encore une fois et la dernière fois : L'Éternel est avec toi. Ne te fie pas aux circonstances, aux événements, aux dires des gens. L'Éternel est avec toi. Même si tout semble témoigner le contraire, l'Éternel est avec toi. Tu n'as plus besoin d'accessoires, tu n'as plus besoin que des personnes puissent verser dans ton sac tant que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Gédéon lui dit : Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Pourquoi ? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent ? Quand ils disent : L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit : Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Est-ce que tu peux dire à ton voisin : Va avec cette force que tu as, va, va avec cette force que tu as, va, 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 va avec cette force que tu as, va avec cette force que tu as. Gédéon lui dit : Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille. Elle est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit : Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Chapitre 7, versets 1 à 7. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon : Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que tu livres Madian entre ses mains, et il pourrait en tirer gloire contre moi et dire : C'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon : Le peuple est encore trop nombreux, fais descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon : Tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon : C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais vous montrer une toute petite illustration pour commencer. Jonas, tu peux venir. Non, viens ici parce que ceux qui sont en haut ne te verront pas. Mets-toi ici. Supposons que Jonas est en train de prier. Et pendant qu'il est en train de prier, il est en train de demander quelque chose au Seigneur. Je détiens entre mes mains la chose qu'il est en train de demander. Alors fais-nous ta prière. Tu es en train de prier, de demander au Seigneur de te donner un micro. Montre-nous comment tu pries.
Seigneur, je prie que tu me donnes les États-Unis d'Amérique. Je voudrais me partir. Give me the USA. Father, help me, Lord. Open doors for me, God.
Et après avoir prié pour les USA, est-ce que tu peux prier pour le micro ? Demande le micro aussi. Et Dieu exauce sa prière et il lui donne le micro. Il a demandé les États-Unis pour y prêcher les évangiles, l'évangile, pour apporter la parole de Dieu. Dieu lui a donné le micro. Et maintenant, Dieu lui dit, vas-y, utilise ce que je t'ai donné. Vas-y, utilise-le.
Father, bless your name.
Est-ce que vous entendez? Allez-y encore.
Father, bless your name.
Est-ce que vous entendez? Ça veut dire que Dieu n'a pas exaucé à la prière, n'est-ce pas? Dieu n'a pas exaucé. Vous dites qu'il a exaucé, mais ça ne lui sert à rien.
Father, I bless your name, Lord.
Ça ne lui sert absolument à rien. Il peut jeter ça, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit quoi? C'est éteint. Donc, Dieu a donné le micro qu'il a demandé, mais quand ça semble ne pas fonctionner, c'est la faute de Dieu? Quelqu'un vient de dire c'est éteint. Donc, il a déjà pourvu. Mais ce qu'il fallait qu'il change en Jonas, c'est qu'il doit réfléchir que Dieu a déjà donné, comment faire fonctionner ce que Dieu a donné. Vas-y, fais-le fonctionner.
Father, bless your name. And now America can hear my voice. Receive salvation in Jesus Christ's name. Thank you, God. I bless your name.
Oui, il mérite d'être applaudi. L'histoire de Gédéon, c'est cette illustration. Tout ce dont Gédéon avait besoin avait déjà été pourvu. Raison pour laquelle le jour où Dieu appelle Moïse et il lui dit d'aller délivrer son peuple d'Égypte, quand Moïse est en train d'avoir cette conversation avec Dieu, qu'est-ce que Dieu lui pose comme question ? Qui a-t-il dans ta main ? Qui a-t-il dans ta main ? Mais Seigneur, moi j'attendais que tu rajoutes quelque chose qui montre que toi, tu as fait quelque chose. Mais dans le cas de Gédéon, tout comme dans le cas de Moïse, tout comme dans le cas de David face à Goliath, qui n'a rien reçu en plus, mais qui a utilisé ce qu'il avait, Dieu a déjà pourvu et répondu aux prières que tu as faites, et il t'a donné les instruments de la victoire. Maintenant, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Changer pour triompher ». Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin « Change pour triompher ». Changer pour triompher. Voici quelques leçons du livre de Juges, quelques leçons sur le livre de Juges. Le livre de Juges nous étale les conséquences de l'apostasie. Il présente un cycle récurrent dans lequel le peuple de Dieu obéit au Seigneur et puis désobéit. Et parce qu'il désobéit, il y a un malheur qui s'acharne sur eux. Juges, chapitre 2, verset 19. « Mais quand le juge était mort, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père pour suivre d'autres dieux, pour les servir et se prosterner devant eux. Ils ne laissaient rien de leurs œuvres ni de leur conduite obstinée. » Juges, chapitre 2, verset 19. C'est pour dire que certaines choses qui nous arrivent ne sont pas nécessairement l'œuvre du diable, mais peut-être une attitude que nous avons adoptée qui a déplu au Seigneur, qui est le maître des temps et des circonstances. Et des fois, quand nous prenons autorité sur l'ennemi, c'est plutôt sur nous qu'il faut chercher qu'est-ce qu'il faut changer au-dedans de nous. Dans le livre de Juges, nous voyons aussi la fidélité de Dieu envers son peuple. Malgré les infidélités d'Israël, Dieu reste fidèle envers son peuple et les délivre de leurs oppresseurs. Dans Juges chapitre 2, verset 18, la Bible dit que l'Éternel fut ému de compassion pour Israël. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que Dieu a de la compassion pour toi. Même quand il sait que c'est de ta faute, il est toujours ému de compassion pour toi. Ému de compassion. Troisièmement, ce que nous apprenons dans le livre de Juges, c'est que le besoin d'un véritable leadership. J'ai toujours dit que les pays en voie de développement, incluent l'Afrique, n'ont pas un problème de ressources, n'ont pas un problème d'hommes ou de femmes, n'ont pas un problème de capacité. Le problème des pays en voie de développement inclut l'Afrique, c'est un problème de leadership. En d'autres termes, quand vous voyez de Genèse à Apocalypse, la réponse du ciel pour un problème de la terre, c'est un homme. Mais est-ce que cet homme a le leadership qu'il faut pour amener le peuple vers la délivrance ? Et c'est ainsi que le livre de Juges met en évidence l'importance d'un leadership fort et fidèle pour guider le peuple. Les juges choisis par Dieu jouent un rôle crucial dans la délivrance d'Israël. Dans le chapitre 2, au verset 16, la Bible dit « L'Éternel suscita des juges qui les délivrèrent de la main de ceux qui les opprimaient. » Dieu suscitait des juges qui les délivraient de la main de ceux qui les opprimaient. Mais ce matin, ne cherche pas qui est le juge, à gauche ou à droite, que Dieu va utiliser. Ce matin, il faut que tu réalises que tu es la personne qui est le choix de Dieu. Son choix, c'est toi. En d'autres termes, ta famille a besoin de délivrance, ton quartier a besoin de délivrance, ton village a besoin de délivrance. Ne cherche plus qui Dieu va utiliser parce que c'est toi que Dieu va choisir. Et Dieu choisit des personnes à un moment donné où les gens se demandaient « Mais qu'est-ce que cet individu peut nous apporter ?» Regardez son background, regardez son résumé, regardez son CV. Il n'est pas possible qu'une délivrance puisse sortir de lui. Quatrièmement, les conséquences du péché et de l'injustice. Les histoires des juges mettent en évidence les conséquences du péché et de l'injustice dans la société. Les Israélites souffrent lorsque le mal prévaut et lorsque les gens font ce qui est mal. Juges chapitre 2, 14 à 15, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. C'est ainsi que vous réaliserez que certaines choses physiques et tangibles qui nous arrivent ont des origines spirituelles. Combien de gens ne recevons-nous pas qui viennent nous parler de blocage ? Pasteur, rien ne marche. Et certains sont même venus me dire, pasteur, au moins ceux qui pêchent réussissent. Mais nous là, parce qu'on a renoncé à ça, 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 ça n'avance pas. Laissez-moi vous dire une chose. Vous pouvez recevoir quelque chose du diable, il vous redemandera quelque chose en retour. Mais si vous recevez quelque chose de Dieu, la Bible dit ceci, il est capable de vous donner une bénédiction qui ne sera suivie de rien et d'aucun chagrin. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Et c'est pourquoi il se compare à un moment donné au voleur qui vient pour égorger, détruire. Mais lui, il dit qu'il vient et apporter la vie, comment ? En abondance. Dis-toi et touche ton cœur en disant, sois patient, sois patient, sois patient, sois patient. Cinquièmement, le besoin d'une véritable repentance. Les Israélites ne connaissaient pas la délivrance ils ne connaissaient la délivrance que lorsqu'ils se tournaient sincèrement vers Dieu et lorsqu'ils se repentaient de leurs péchés et qu'ils revenaient à Dieu. Juges chapitre 10, versets 15 à 16, les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, « Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira, seulement daigne nous délivrer en ce jour. » Ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux, et ils servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Alors, quelques leçons que je voudrais que nous puissions tirer, non seulement du livre, mais également quelques vérités sur la personne de Gédéon, avant que nous entrions dans les détails. Quelques vérités sur la personne de Gédéon. La première vérité ou la première leçon que je voudrais que nous puissions retenir de Gédéon, c'est que je suis ce que Dieu dit que je suis. Ok ? Je suis ce que Dieu dit que je suis. Il a une expérience avec l'ange qui vient et qui lui parle. Mais quand l'ange l'appelle, Gédéon ne reconnaît pas cette appellation. Pourquoi ? Jamais personne ne l'a appelé comme ça. Ses parents l'ont nommé Gédéon. Mais quand l'ange arrive et qu'il l'appelle, il l'appelle comment ? Vaillant héros. Et il est en train de contester cette appellation parce que rien dans ses circonstances ou rien dans sa vie ne témoigne qu'il est un vaillant héros. Mais retiens ceci, celui qui fabrique l'objet connaît la valeur de l'objet et connaît les capacités de l'objet parce qu'il l'a fabriqué avec intention. Et donc, lorsque Dieu t'appelle vaillant héros, c'est parce qu'il sait que tu es un vaillant héros. Mets-toi simplement avec Dieu en disant, oui, aujourd'hui j'accepte que même si on m'a appelé tel ou on m'a appelé tel ou on m'a considéré tel, ce que je suis, c'est ce que toi tu dis. Et c'est pourquoi tu peux dire avec confiance, c'est moi. Et ça me va. Deuxième leçon que nous apprenons de Gédéon, c'est que je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Les excuses qu'il donne aux porte-paroles de Dieu, c'est que non seulement nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, mais je suis issu d'une petite famille pauvre, malheureuse et misérable. Et moi, dans cette famille pauvre, malheureuse et misérable, je suis le plus petit, c'est-à-dire le plus pauvre, le plus malheureux, le plus misérable. Mais regardez, l'instruction que Dieu donne dès le départ, c'est « va avec la force que tu as ». Comme quoi, tu attendais de pouvoir mettre diplôme sur diplôme, tu attendais d'avoir connexion sur connexion, tu attendais d'avoir expérience sur expérience, CV sur CV, et Dieu dit, pour la mission que je t'ai donnée et ce que je veux que tu accomplisses, va avec la force que tu as, parce que j'ai déjà mis en toi ce dont tu as besoin. Est-ce qu'il se peut qu'il y ait des entrepreneurs dans cette salle à qui Dieu a déjà tout donné, mais ils n'ont pas encore réalisé qu'ils ont dans leurs mains ce dont ils ont besoin pour prospérer? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait dans cette salle des grands leaders qui sont capables de gouverner sur des cités, sur des villes, sur des villages? Et j'ai même vu, quand on regarde des fois notre hémicycle du Palais du Peuple, que ce n'est pas nécessairement les gens qui ont fait les hautes études qui sont assis là-bas. Certains d'entre eux, tout ce qu'ils ont fait, c'est vous donner un pagne et un képi, vous avez voté pour lui et il est assis là-bas. Et quand on vote des lois, il y a des lois qu'il ne comprend même pas, il ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est en train de voter cette loi-là. On lui dit simplement « l'argent est ici », alors il commence à voter pour cette loi-là. Mais c'est pour dire que Dieu n'a pas besoin de la qualification des hommes pour te qualifier. C'est pourquoi il n'appelle pas nécessairement les qualifiés, mais il qualifie les appelés. Et tu es un appelé de Dieu et il t'a déjà qualifié pour la mission à laquelle il t'appelle. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Et il lui dit ceci, délivre Israël. Il n'a jamais été chef de quartier. Il n'a jamais été maire. Il n'a jamais été gouverneur. Il n'a jamais été ministre. Il n'a jamais été premier ministre ni sénateur. Il n'a même pas été vice-président. Mais Dieu dit, toi qui te vois ici, va délivrer le peuple d'Israël. C'est pourquoi quand tu pries Dieu pour qu'il te révèle ta destinée, retiens ceci, la destinée que Dieu a est à son niveau et non pas à ton niveau. Le grand problème que nous avons au Congo, c'est que personne ne prend la responsabilité pour l'état de la nation. On pense que quelqu'un d'autre doit s'en occuper. Qui sait, si tu n'es pas la personne que Dieu va utiliser très bientôt, il peut y avoir dans cette assemblée, qui sait, le prochain premier ministre de la RDC. Peut-être qu'il ou elle est assise ici. Mais je dirais à toi, comme Joseph a dit à ceux qui sont sortis de la prison, quand tu arrives là-bas, ne nous oublie pas parce que nous, nous serons toujours en train de prêcher ici. Qui sait, après avoir fait que tous les présidents soient sortis de Kinshasa, que peut-être Dieu va dire, puisque le problème est à l'Est, je prendrai un leader qui vient de l'Est. Peut-être que le prochain chef d'État de la RDC est assis parmi nous aujourd'hui. Rien n'est impossible à Dieu. Ça peut même être un pasteur ou un prophète. Je ne pose pas ma candidature. Et enfin, une chose que je veux que nous puissions apprendre de Gédéon, encore, c'est que j'ai tout ce qu'il faut pour vaincre. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour vaincre. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour vaincre. Gédéon a dû changer. Mais qu'est-ce qu'il a changé? La première chose que Gédéon a changé, et je voudrais que vous notiez ceci, la première chose qu'il a changé, c'est sa perception de Dieu. Première chose qu'il a changé. Sa perception de Dieu. Juges chapitre 6, verset 13, la Bible dit ceci, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Le volcan, le M23, le choléra et Ebola, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Et où sont ces prodiges dont nos pères nous racontent? On a dit que tu as séparé la mer rouge, que tu as nourri ton peuple avec la manne du ciel, que l'eau du rocher est sortie, mais moi, regarde-moi dans ma situation. Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a pas fait monter hors d'Égypte, maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » La perception que Gédéon a de Dieu, c'est un Dieu qui abandonne. Et si tu as cette perception de Dieu, eh bien tu vas chercher des solutions à ton niveau. Escroquerie, débauche, adultère, vol. Pourquoi? Parce que ta perception de Dieu, c'est un Dieu qui abandonne. Tu nous as abandonnés. Regarde les circonstances autour de nous. Tu nous as abandonnés. Pasteur, vous croyez vraiment que si Dieu était avec nous, ma famille serait dans la misère dans laquelle on est maintenant? On n'a même pas pu enterrer notre papa qui est décédé. Maman est malade, nous n'avons pas les moyens pour venir à bout de cette maladie. J'ai dû arrêter mes études. Et laissez-moi dire aux jeunes ceci. Autant j'encourage les études, allez le plus loin possible. Mais ne faites pas des études une fin en soi. Ne faites pas des études une fin en soi. Parce qu'à l'âge de l'information dans laquelle nous sommes, ce n'est plus tellement le diplôme qui est aussi important que la connaissance qu'apporte le diplôme. Et comme la connaissance est disponible, cherche la connaissance, le diplôme pourra venir après. Dieu est capable de te qualifier même sans un diplôme. La preuve en est que dans certains pays en voie de développement, vous pouvez chercher les diplômes des chefs d'État. Vous n'allez pas les trouver parce que vous ne savez pas où est-ce qu'ils ont étudié. Et Dieu est capable de te prendre de là où tu es, dans ton petit quartier de Goma, là, à Keshero, et de dire à partir de maintenant, c'est toi qui vas au palais de la nation, tu vas diriger la nation. Il peut le faire. Il n'a besoin du conseil de... Quand lui prend une décision, les hommes et les femmes de la terre s'alignent à sa décision. Sa perception de Dieu, c'est que Dieu nous a abandonnés. Pourquoi ? Parce que je vois qu'il nous a abandonnés. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la... Tu peux ne pas voir les signes de l'exaucement, mais tu peux croire aux signes de l'exaucement. Même si je vois le malheur autour de moi, je crois en la délivrance de l'Éternel. Même si pour l'instant ça semble ne pas marcher, j'ai la certitude qu'il a pour moi des projets de paix et non de malheur pour me donner un avenir et de l'espérance. Donc je resterai accroché à ce Dieu qui a fait la promesse, parce qu'il se lèvera le dernier. Alors regardez, dans Josué chapitre 1-9, lorsque Dieu est en train d'envoyer Josué, il lui dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Regardez encore, lorsque Dieu parle à travers Ésaïe, dans Ésaïe 41-10, et ça c'est une parole pour quelqu'un qui est venu ce matin, retiens ceci, Dieu te dit ceci, ne crains rien, car je suis avec toi. Non, lisons-le jusqu'à la fin, ne crains rien, car ne promène pas, car je suis, je viens, de ma droite triomphante. Que cette parole essuie les larmes de quelqu'un ce matin. Ce que tu vois n'est pas aussi réel que ce que tu crois. Ce que tu vois n'est pas aussi réel que ce que tu crois. Tu peux voir un Goliath et un David sur le champ de bataille et se dire « Le peuple d'Israël est foutu, regardez la taille de Goliath. » Mais quand tu lis la fin de l'histoire, tu réalises qu'il y a quelqu'un qui écrit la conclusion. Peu importe ton introduction, Dieu te révèle une conclusion glorieuse. Glorieuse, glorieuse, glorieuse. Et regardez également sa perception de Dieu lorsque Dieu envoie ses disciples en disant « Maintenant, tout pouvoir m'a été donné, allez, faites de toutes les nations disciples. » Et il leur dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu, change ma conception, change ma perception de toi. » Dans Psaume 23, verset 4, ce même verset que nous récitons à longueur de journée, mais si nous le récitons et nous le récitons par cœur, réaliser qu'il y a un passage dans Psaume 23, le verset 4, qui dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre, il ne dit pas « si je marche ». C'est une promesse, tu vas rencontrer la vallée de l'ombre de la mort. La vallée est là, elle est sur ton parcours, elle fait partie des promesses de Dieu. Elle est là. C'est pourquoi il dit « quand je marche », non pas « si je marche ». Il ne dit pas « au cas où je marche », mais « quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Hébreux 13, 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point. » Gédéon et le peuple d'Israël ont crié, ont prié, et Dieu a donné. Mais dans leur perception, ils ont estimé que Dieu n'a pas encore répondu. Dieu n'a pas encore répondu. C'est ça qu'ils ont demandé, mais Dieu n'a pas encore répondu. C'est pourquoi vous constaterez que le jour où vous allez prier pour que Dieu vous donne une chaise, Il peut vous donner un arbre. Pourquoi la chaise est cachée dans l'arbre? Le jour où tu vas prier et demander que Dieu puisse faire en sorte que tu puisses avoir la connaissance en médecine, toi tu attends le diplôme et Dieu te met à côté de toi un médecin qui va transmettre toute sa connaissance auprès de toi. Tu as la capacité, le diplôme pourra suivre après. Dans mon parcours, à un moment donné, Dieu m'a dit d'arrêter les études pour me consacrer à temps plein. Et ma mère est là. C'était très dur pour mes parents. C'était très dur pour mes parents parce qu'ils valorisent, surtout pour papa. Et je me disais, comment je vais dire à papa? C'est pas possible. Depuis qu'on est tout petit, papa et maman nous disent de nous consacrer aux études. Et nous connaissions l'importance des études. Mais il y a un moment où Dieu m'a dit, maintenant tu vas me servir à temps plein. Et plutôt que de savoir qu'est-ce que l'avenir me réserve, j'ai d'abord obéi au Seigneur. Et j'ai arrêté les études pendant un moment donné. Et j'ai servi le Seigneur à temps plein. Ce n'est que plus tard que Dieu a dit, bon, ça va, maintenant que tu m'as obéi, il est temps de rentrer à l'école. J'ai terminé avec honneur, avec brio, avec éclat. J'ai eu le diplôme que j'ai remis à maman et à papa. Voici le diplôme que vous attendiez. Et parce qu'eux aussi se sont soumis à la volonté de Dieu et qu'ils ont accepté, ils ne m'ont fait absolument aucun problème. Ils se sont dit ceci, j'étais l'enfant le plus turbulent de la maison, maman est là, le plus difficile. À un moment, il paraît que mon père se demandait même si je n'étais pas fou, parce que les choses que je faisais là, ça n'allait pas. Et au moment où je grandissais, j'étais dans la rébellion. Papa dit quelque chose, je fais le contraire. Vous rentrez à 18h, je rentre à 21h. Et des fois, il se disait, mais on a réussi avec les autres enfants, mais avec celui-là, qu'est-ce qu'on a fait au ciel pour avoir celui-ci? Et quand je me suis converti, j'ai tellement changé que les parents m'ont dit, le jour où je leur ai dit que Dieu m'a appelé à temps plein, les parents m'ont dit, si c'est le même Dieu qui a fait de toi ce que tu es maintenant, si c'est lui maintenant qui t'envoie à temps plein, alors si c'est ce Dieu-là, tu peux partir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tout essayé pour me changer et c'est Jésus-Christ qui était en mesure de me changer. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que ta vie soit un témoignage pour ton entourage. Ta vie soit un témoignage pour ton entourage. Pas seulement ce que tu dis, mais ce que tu es. Que l'on puisse dire qu'effectivement, on avait perdu tout espoir avec toi, mais depuis que tu as rencontré le Seigneur Jésus, il y a quelque chose de différent. Quelque chose de différent. Deuxième chose que Gédéon devait changer, c'est sa perception de lui-même. Sa perception de lui-même. Verset 15, chapitre 6, « Ma famille est la plus pauvre. Et moi-même, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Regardez les stratégies de Dieu. Il utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il utilise les petites pour confondre les grandes. Quand il fait ça, il veut vous montrer que je n'ai pas besoin de m'aligner à votre système de pensée. Pourquoi? J'ai créé toutes choses. C'est pourquoi s'il veut tirer la gloire d'une situation, il va des fois permettre que ça se complique au maximum. Que ça devienne difficile pour que tu finisses par admettre que oui, ici, si ce n'est pas Dieu qui intervient, eh bien rien ne pourra se faire. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il y a une sœur et il y a un frère, vous pensez être arrivé vraiment au bout. Cette fois-ci, pasteur, c'est au bout. Cette fois-ci, il n'y a plus d'issue. Laisse-moi te dire ce matin, la fin pour toi est le début de Dieu. La fin de ton raisonnement est le début de la manifestation de Dieu. Crois simplement et tu verras comment Dieu va écarter certaines situations pour te montrer qu'il fallait que tu arrives là pour que je puisse te donner le chapitre suivant. Il a mis la virgule. La perception de lui-même devait changer. Il devait être en mesure de dire comme l'apôtre Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et on a l'habitude de citer ce verset, mais regardez les versets qui précèdent. Verset 13, « Oui, je puis tout par celui qui me fortifie. » Oui, si c'est lui qui me fortifie, donc je peux tout. De moi-même, je ne peux rien. Mais si il me fortifie, oui, je peux tout. Et regardez, 11 et 12, Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, parce que j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Oh, je prie pour un peuple de Dieu qui est content de l'état dans lequel il se trouve. Que tu sois dans la disette ou que tu sois dans l'abondance, que ta louange ne change jamais auprès du Seigneur. Que tu sois dans le besoin ou que tu sois dans la prospérité, que ta louange à l'Éternel ne change jamais. Le problème, c'est que nous avons suivi le monde et nous voulons avoir les accessoires de la réussite que le monde nous présente. Il arrivera que Dieu vous fasse traverser le désert, mais c'est parce qu'il veut parler à votre cœur. En fait, je vous ai dit le mercredi à l'étude biblique, je vais continuer encore le mercredi prochain, je vous ai dit à l'étude biblique que des fois, Dieu, pour te révéler ce qu'il y a dans ton cœur, va permettre que tu puisses traverser aussi un moment de prospérité. C'est-à-dire, il va te donner de l'argent. Il va te donner une situation, il va te donner une position. Et ce que tu fais quand tu es devenu riche, c'est ça ta véritable nature. Ici, tu étais simplement en train de nous tromper. Tu priais en disant, « Seigneur, bénis mes affaires !» Dieu bénit tes affaires, on ne te voit plus à l'église. Tu parles avec un manque de respect à ton entourage. Tu commences à juger les gens selon leurs avoirs. Tu changes même les amitiés autour de toi parce que tu veux même maintenant être avec les riches et les importants. Que Dieu nous donne des chrétiens prospères et humbles. Humbles et prospères. Humbles et prospères. Humbles et prospères. Humbles et prospères. Rick Warren, le pasteur d'une des plus grandes églises aux États-Unis, qui a écrit « Une vie motivée par l'essentiel », qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Le Seigneur l'a béni, il est devenu millionnaire. Est-ce que vous savez que Rick Warren, plutôt que d'élever son standard de vie, a élevé son standard des offrandes et des dons qu'il donnait à Dieu? Au lieu de donner 10%, il a commencé à donner 20, 30, 40, et aujourd'hui, il donne 90%, 90% de ses avoirs au Seigneur. Il n'a pas changé de maison, il n'a pas changé de voiture. Il est resté dans la même maison. Il est là-bas en Californie. Pourquoi ? Dieu lui suffit. Dieu lui suffit. Est-ce que cela ne fait pas de lui un prospère ou un vainqueur ? Mais si, bien sûr. Que Dieu t'accorde cette grâce de prospérer à tous égards, mais de rester le témoin de Jésus-Christ. Rester le témoin de Jésus-Christ. Sa perception de soi, psaume 139, 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Peu importe comment on m'a qualifié et ce qu'on a dit de moi, je te loue de ce que tu as fait de moi. Je te bénis de ce que tu as fait de moi. » On a béni plusieurs mariages. Et il me souvient, je me souviens qu'à un moment donné, je me disais, je regardais le marié et je regardais la mariée. Je disais, il n'y a que la grâce de Dieu. Parce que celui-ci, avec celle-là, c'est vraiment la grâce de Dieu. Regardez d'ailleurs comme ma femme est belle. J'ai une très belle femme. J'ai une très belle femme, très belle femme. Et quand je me regarde, je me dis, ah Seigneur, quelle grâce vraiment. Moi là comme je suis. Et si j'étais David, j'allais dire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et il arrive que Dieu donne la vision à certaines sœurs de voir l'intérieur plutôt que l'extérieur. Gloire à Dieu. Pour les sœurs qui voient l'intérieur plutôt que l'extérieur. On néglige pas l'extérieur, hein, mais celles qui sont spirituelles voient l'intérieur, l'intérieur, l'intérieur. Bien que Dieu a tout bien créé. Dis avec moi, je te loue, Seigneur, d'être une créature si merveilleuse. Priez pour le micro, j'ai reçu le micro. Changez ma perception de celui qui donne le micro. Changez ma perception de moi qui ai reçu le micro. J'ai la capacité d'utiliser ce micro. J'ai la capacité de l'allumer. Changez ma perception de moi. Une autre chose qu'il a dû changer, c'est sa perception des autres. Sa perception de ceux qui étaient autour de lui. Dans Juges 7, verset 3, la Bible dit, lorsque Gédéon a été en mesure de mobiliser le peuple, maintenant ils sont nombreux, ils vont faire face à 135 000 Madianites et Amalécites. 135 000. Ils mobilisent le peuple. Ils sont environ 32 000. Et regardez ce que la Bible dit, verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. Combien de personnes sont parties ? Combien de personnes sont parties? Retiens ceci. Ne pleure plus pour ceux qui sont partis. Occupe-toi de ceux qui sont restés. Pourquoi? Ce n'est pas avec ceux qui sont partis que tu vas réussir, c'est avec ceux qui sont restés que tu réussiras. Gédéon s'est dit, comme moi-même je suis petit, et que je ne crois pas que je pourrais délivrer le peuple, alors mettons-nous avec le plus de gens possible. Certaines des relations que tu t'es faites, c'était par peur d'être seul. Quelqu'un a même dit, écoutez, vous voyez certains animaux qui évoluent en groupe, mais vous voyez, si le lion est seul, c'est parce qu'il a confiance en qui il est. Quelqu'un a même dit à un moment donné que quand vous voyez un oiseau sur un arbre, sur une branche d'arbre, et qu'il a une certaine confiance que l'arbre est là, c'est qu'à un moment donné, plutôt que de penser à la force de la branche, l'oiseau est en parfaite sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il a des ailes. Gédéon pensait que la quantité allait lui amener la victoire. La quantité, le nombre de personnes autour de moi. Le nombre de personnes autour de moi. C'est pourquoi, ma sœur, s'il t'a quitté, ne pense pas qu'il y a quelque chose de mauvais en toi, à moins que tu aies fait quelque chose de mauvais. Mais s'il est parti de lui-même, il t'avait promis de t'épouser, mais il est parti de lui-même, ne t'inquiète pas. C'est Dieu qui a simplement fait en sorte qu'il puisse te quitter afin qu'il te donne ce qui t'appartient à toi. Ok ? Si on t'a rejeté dans un groupe, va créer un autre. Si le groupe avec lequel tu travaillais est en train de se réduire, c'est que Dieu est en train de faire la sélection. 5 000, sans compter les femmes et les enfants, il les a nourris de pain et de poisson. 70 l'ont quitté quand il a donné un enseignement sur manger sa chair. Il est resté avec 12. Parmi les 12, un l'a trahi et l'autre l'a renié. Et on se demande, mais la fin de Jésus-Christ est misérable ? Sauf que de ceux qui étaient restés étaient ceux que Dieu allait utiliser. Et si tu es resté, tu fais partie de ceux que Dieu va utiliser. Tu fais partie de ceux. C'est pourquoi ne regarde jamais personne avec mépris. Jamais personne avec mépris. La personne qui est assise à côté de toi peut faire partie des 300 avec lesquels vous allez délivrer la RDC. Personne assise à côté de toi. À côté de toi. À côté de toi. Et les célibataires, je ne parle pas de ça. Je parle simplement d'avancer dans le royaume des cieux. Qui sait ? Après tout, moi, je préfère que vous vous mariez ici à un jour nouveau. Les frères, vous pouvez prendre ailleurs, mais vous les ramenez ici. Les sœurs. Perception des autres. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Les mauvaises compagnies. Ne vous trompez pas. Quelqu'un a dit ceci. Tu peux savoir ce que tu vas devenir par les personnes que tu fréquentes. Et il dit ceci. Qui se ressemble ? John Maxwell va plus loin. Il dit, tu es la moyenne des personnes que tu fréquentes autour de toi. Si tu es entouré de 4 sages, tu seras probablement le 5e sage. Si tu t'entoures de 6 intelligents, tu seras peut-être la 7e intelligente du groupe. Commence à sélectionner les personnes autour de toi, non pas par la quantité, mais par la qualité. Je ne dis pas que vous devez renier tous vos amis païens. Je dis simplement, si ce n'est pas toi qui les influences, c'est eux qui risquent de t'influencer. Choisis ton entourage. Proverbe 13, 20, celui qui fréquente les sages devient... Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice, ou l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres dans 2 Corinthiens 6, 14. Et enfin, je vais terminer avec la perception de l'ennemi. Perception de Dieu a dû changer. Perception de soi. Perception des autres. Et maintenant, Dieu a changé sa perception de l'ennemi. Il voyait les Madianites comme étant ce peuple qui, pendant des années, nous ont retenus captifs. Ils nous ont privés de la liberté. Ils nous ont empêchés de jouir de tout ce que Dieu avait en réserve pour nous. Dans Juges 6, 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» lui pose-t-il comme question. Dans le verset 16, il dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Tu battras qui ? Madian, l'ennemi. Je ne sais pas quel est le nom de cet ennemi qui t'a terrassé pendant tout ce temps. Est-ce que c'est la peur, c'est un ennemi de taille, la peur, qui t'empêche de t'engager dans les études, de prendre une sœur ou un frère en mariage, qui t'empêche de te dire « c'est possible pour moi aussi ». Moi aussi, je vais poser ma candidature et je prie qu'il y ait dans cette église des hommes et des femmes qui s'engagent aussi dans la politique. Engagez-vous aussi dans la politique. On va prier pour vous. Allez changer les choses à ce niveau-là. On va prier pour vous. Que des gens s'engagent dans l'entrepreneuriat. Nous allons prier pour vous. Est-ce que c'est la peur ? Est-ce que c'est la peur ? Est-ce que c'est un péché récurrent qui fait en sorte que tu dis, bon, quand le pasteur André, pasteur pacifique, nous appelle à venir servir à l'église, ils ne savent pas que depuis longtemps, je suis en train de me battre contre l'impudicité et ça ne marche pas. Je suis fort pendant une semaine, je tombe la semaine suivante. Pour quelqu'un, c'est la pornographie, pour quelqu'un, c'est la fornication, pour quelqu'un, c'est le vol, les calomnies, mensonges, pour quelqu'un d'autre, c'est simplement le découragement. Découragement. Il se réveille fatigué et découragé. Découragé. Parce qu'il se compare aux autres. Qui est ton ennemi ? Qui est ton ennemi ? Mais retenez ceci. La taille de ton ennemi détermine la taille de ta victoire. Ça veut dire en d'autres termes, la taille de ton ennemi va déterminer la taille de ta promotion. S'il te donne un berger face à un berger, alors tu auras une récompense de berger. Mais s'il te donne un guerrier, toi qui es berger, et que tu bats le guerrier, alors tu as une récompense de guerrier. Ça veut dire que les femmes vont chanter pour toi, et ça veut dire que tu seras en mesure d'être au niveau de ce guerrier et même plus loin. Regardez, non seulement qu'il y a eu des louanges pour David, mais on a comparé David à qui ? Au roi. Le type de victoire que Dieu te réserve est un type de victoire où tu seras élevé au niveau de ceux qui sont loin au-dessus de toi aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tu seras en mesure de réussir là où d'autres avaient échoué ou là où toi-même tu avais échoué. Il a dû changer sa perception de l'ennemi. Dans sa tête, l'ennemi, Madian, est imbattable. Impossible de battre Madian. Ça fait des années. On ne peut pas battre Madian. Mais il a dû se mettre au même diapason et la pensée de Dieu. Psaume 18, 48. Qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. Je déclare qu'avant la fin de cette année, tu vas triompher de tout ce qui te terrassait aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, tu vas triompher. Quel que soit le nom ou la taille de ton ennemi, tu vas triompher. Pasteur, vous ne savez pas, cette addiction est forte. D'ailleurs, ça a commencé par grand-père. C'est passé par papa et maintenant c'est sur moi. Et je t'annonce que ça va s'arrêter avec toi et l'histoire va changer avec toi et pour ta descendance et pour tes enfants. Sa perception de l'ennemi. Romains 8, 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Parce que pour l'apôtre Paul, les choses que je ne voulais pas faire, c'est ça que je faisais. Mais ce que je voulais faire, je n'arrivais pas à le faire. Mais dans le chapitre 8, Dieu m'a affranchi de la loi du péché. Alors je vais te donner quelques conseils et je termine ici avec ces quelques conseils. Pendant toute cette période, je vais parler de Gédéon. Je vais sortir quelques éléments de Juges 6 et 7 et suivants. Et je vais essayer d'illustrer les domaines de la victoire que Dieu peut nous donner. Et vous allez comprendre que dans certaines de ces leçons que nous allons apprendre, vous n'aurez pas besoin d'attendre qu'il y ait quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais Dieu va ouvrir vos yeux sur ce qu'il a mis à l'intérieur. Et là où vous êtes, la révélation va vous toucher au point que vous réaliserez, « Ah, mais donc, en fait, ce que je pensais, mais c'est là, C'est là. Et tu comprendras que le fait que tu aies un jour nouveau, ce n'était pas simplement le nom d'une église, mais qu'un jour nouveau était prophétique pour toi. Que tu es venu parce que Dieu a fait dans ta vie un jour nouveau. Voici quelques conseils pour terminer. Premièrement, fixe-toi des objectifs. Définis des objectifs réalisables. Fixe-toi des objectifs. Dieu a bien dit par l'ange, allez, tu vas délivrer Israël et tu vas battre Madian comme un homme. Et dans les objectifs, il a dit, d'abord, il faut mettez à terre Baal, qu'il n'y ait pas d'idole au milieu de vous. Deuxièmement, apprenez continuellement. Les amis, faisons de nos rencontres de la semaine des rencontres aussi importantes que la rencontre du dimanche. Ici, je ne peux vous donner que des miettes, mais le mercredi, je peux vous donner les détails de tous ces passages qu'on est en train d'étudier. Ici, je n'ai pas suffisamment de temps. Mais là, non seulement que nous pouvons vous donner les détails, vous avez aussi le loisir de poser des questions pour avoir des éclaircissements. Donc, deuxièmement, apprenez continuellement. Dieu dit ceci, « Mon peuple périt parce qu'il ne prie pas assez. Mon peuple périt parce qu'il ne jeûne pas assez. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas un diplôme de théologie. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi ? La connaissance. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et ce n'est pas la prière, mais c'est la vérité qui va faire quoi ? C'est la vérité qui vous affranchira. La solution à ton problème se trouve dans la connaissance de ce que Dieu t'a donné, de qui il est, de qui tu es et de qui il a mis autour de toi. Tu as déjà la victoire. Tu as déjà la victoire. Troisièmement, premièrement, fixez des objectifs. Deuxièmement, apprenez continuellement. Troisièmement, prenez soin de votre santé. Et pasteur André a donné un message très percutant sur les choses importantes que nous devons tenir de notre santé. En fait, il ne peut pas t'utiliser si tu n'es pas en mesure de faire ce qu'il t'a appelé à faire. Quatrièmement, pratiquez l'autonomie. Prenez des décisions et assumez la responsabilité. Gédéon a pris la responsabilité de tout un peuple sur lui. C'est la même chose que David avait fait face à Goliath. Si lui, il perdait, c'est tout le peuple qui allait perdre. Mais si lui, il gagnait, c'est tout le peuple qui allait gagner. Et je prie que le salut de ta famille vienne de toi et à travers toi. À travers toi. Si on a appelé tous les autres des pervers, que toi, on t'appelle juste et intègre. Que tu sois le premier juste et intègre. Cinquièmement, développez vos compétences. Et surtout, sachez communiquer. Cultivez une attitude positive. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous face à toutes les circonstances. Sachez seulement que Dieu est toujours sur le trône. Il n'a pas quitté le trône. Et parce qu'il est sur le trône, mon avenir est assuré. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais qui me réserve un avenir. Et c'est Dieu, l'Éternel des armées. Pratiquez la gestion du temps. En d'autres termes, gérez-vous. C'est dommage que nous avons une église qui est remplie de retardataires. Faites un effort. Faisons un effort d'être là à temps. C'est un rendez-vous avec Dieu que nous avons. C'est la personne la plus importante dans notre vie. Et respectons-le avec notre temps, avec notre ponctualité. Entourez-vous des personnes de qualité. Entourez-vous des personnes de qualité. Cultivez la gratitude. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Et soyez flexible et ouvert au changement. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des situations comme avec Gédéon qui feront en sorte que Dieu va simplement changer votre position pour changer votre situation. Si vous continuez à argumenter avec Dieu et vous dites à Dieu, tu ne m'as toujours pas répondu, ce que j'ai dans mes mains ne me sert à rien. Si tu ne changes pas ta perception, tu n'auras pas ce pour quoi tu avais prié. Parce que ce que tu as demandé est déjà entre tes mains. Je vais terminer avec une petite histoire que j'ai racontée il y a peut-être très longtemps, très 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 longtemps. Je crois qu'on était encore de l'autre côté. Et c'était l'histoire d'un aigle qui avait des enfants. Et les enfants de l'aigle, on les appelle? Comme vous dites là. Il avait ses enfants et l'un d'entre eux, pendant qu'il était en train de voler, est tombé. Et il est tombé dans une ferme. Et quand il est tombé dans cette ferme, il s'est retrouvé entouré de chicken, de poules. Et il était dans la basse-cour avec les poules. Mais chaque fois qu'il était dans la basse-cour avec les poules et qu'il regardait dans le ciel, il voyait les aigles. Et il se disait, waouh, moi j'aimerais un jour voler dans les airs comme les aigles, comme ils sont majestueux, comme ils sont beaux. Et c'est peut-être l'histoire de quelqu'un aujourd'hui. Tu regardes ceux qui sont dans le gouvernement, tu regardes ceux qui sont dans les affaires, tu regardes ceux qui ont réussi dans le ministère, et tu les regardes de loin, tu dis, ah, moi aussi un jour, moi aussi je vais être comme ça. Mais entre là où il était et là où il voulait aller, c'était impossible de l'atteindre. Mais il avait en lui cette passion, ce désir, cette volonté. Et il y a quelqu'un ici ce matin. Tu sais que là où tu es, ce n'est pas tout. Donc il y a plus que Dieu en réserve pour toi. Tu le sais. Tu en es convaincu. Et puis, pendant qu'ils étaient en train de jouer, à un moment donné, l'aiglon, en regardant les aigles, il se disait, je vais essayer d'imiter ce qu'ils sont en train de faire. Et il essayait. Et pendant qu'il essayait, les autres se moquaient de lui. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des poules. Nous ne pouvons pas aller loin. Nous réfléchissons comme des poules. La preuve, quand nous mangeons en mettant notre bec par terre. Alors que l'aigle vient d'en haut pour prendre sa proie. Et chaque fois qu'il essayait, les autres se moquaient de lui. Pourquoi? Il n'était pas comme lui. Il n'était pas de la même nature que lui. Il n'avait pas son identité. Et pendant qu'il essayait et qu'on se moquait de lui, à des moments, il s'est découragé. Et certains d'entre nous, nous décourageons, nous disons finalement ce que le pasteur Camille nous enseigne là, c'est pour eux, c'est pour eux. Nous, il faut tricher un peu, il faut voler un peu. Nous, il faut quand même commettre certaines choses là, parce que ça, c'est la réalité. Ce que eux nous parlent, c'est le dimanche, c'est la Bible. C'est comme j'étais en train de négocier avec quelqu'un pour une propriété, il me disait, bon pasteur, ce que vous racontez là, c'est la Bible, ici, c'est le business. Mais si tu ne laisses pas Dieu entrer dans ton business et dans tes activités, tu n'auras pas les résultats qu'il donne à certains qui lui font confiance. Que Dieu te bénisse, toi qui es dans le business, et que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Et il a commencé à douter de lui-même. Et à un moment donné, il a entendu la voix de l'un des aigles qui était en train de passer en disant, « Viens nous rejoindre, viens nous rejoindre. » Et tout ce dont il avait besoin, c'était de cette voix-là. Et il a essayé. Il a essayé, et il a essayé davantage, sans se décourager, en persévérant, parce que la voix qu'il avait entendue semblait résonner en lui comme si toi aussi tu appartiens aux gens qui nous ressemblent. Je prie que tu puisses entendre cette voix qui te dit, vaillant héros, vaillante héroïne, tu es capable, tu peux, j'ai tout mis en toi dans ce dont tu as besoin. Et il a essayé, il a essayé. Et il s'est rendu compte, plus il essayait de déployer ses ailes. Déployer ses ailes. Il y a quelqu'un qui va déployer ses ailes maintenant et réaliser que ses ailes s'étendent plus que les ailes de la poule. Et parce qu'il déploie ses ailes, Seigneur, je crois, je vais mieux te servir, je me consacre à toi. Maintenant, je peux aussi avoir ce diplôme. Moi aussi, je peux poser ma candidature. Il se rend compte qu'il a des ailes. Et pendant qu'il arrive au bout de la falaise, où il n'y avait plus rien. Il a été jeté comme s'il allait être abandonné. Il s'est rendu compte que ses ailes pouvaient le porter dans les hauteurs. Et je prie que les ailes que Dieu t'a données puissent te porter dans les hauteurs, que tu puisses atteindre les hauteurs que Dieu a en réserve pour toi. Peu importe ce que tu as cru, peu importe ce qu'on t'a dit, tu es un aigle. Prends le vol comme l'aigle, parce que c'est l'année de la victoire. Baissons nos têtes dans la prière. Personne ne veut m'aider. Est-ce que c'est ta perception de l'ennemi? Pasteur, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé, je n'arrive pas. Ceux d'entre nous qui êtes là ce matin, vous voulez que Dieu change votre perception de Dieu? Levez la main, je vais prier avec vous et pour vous. Levez la main, gloire au Seigneur. Vous voyez voir le Dieu qui est capable d'être en coalition avec vous. Oui, levez la main, n'ayez pas honte. Gloire au Seigneur. Baissez vos mains. Ceux qui voulaient que Dieu change votre perception de vous-même, que vous arrêtiez de vous voir comme étant le plus misérable qui ne peut absolument rien, levez la main, je veux prier avec vous et pour vous. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance qu'on demande à Dieu. Pas de l'arrogance, de l'assurance. Levez la main, changez la perception de vous-même. Gloire au Seigneur. Ceux qui êtes là, vous voulez que Dieu change votre perception des autres. Vous êtes tout le temps en inimitié contre les gens. Mais Dieu a mis autour de vous les personnes avec lesquelles il veut que vous remportiez la victoire. Vous voulez changer la perception des autres, levez la main, je vais prier avec vous et pour vous. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Puisses-tu trouver un partenaire d'affaires, un partenaire d'études et même un partenaire de vie, toi qui as levé la main. Et enfin, vous voulez que Dieu change votre perception de l'ennemi. Levez la main, je vais prier avec vous et je vais prier pour vous. Baissez vos mains. Avant de prier pour tout un chacun d'entre nous, je veux quand même donner l'opportunité à quelqu'un qui est là. Tu n'as jamais recommandé ta vie à Jésus et tu n'as jamais fait de lui le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Mais pendant que j'étais en train de parler, tu as compris que tu ne peux pas vivre parmi les poules parce que tu es un aigle. Et tu veux aujourd'hui reconnaître avec Dieu qu'il t'a appelé pour être un aigle qui prend les hauteurs. Si tu es là ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus pour la première fois. Il n'est pas question de changer d'église, mais il est question de donner ta vie à Jésus et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là, lève ta main. Je vais prier avec toi et je vais prier pour toi également. Tu veux donner ta vie au Seigneur et tu veux faire de lui le Sauveur et le Seigneur de ta vie. Là où tu es, lève la main. Je vais prier avec toi et je vais également prier pour toi. Je ne suis pas en train de parler d'une nouvelle religion. Je vois ta main là-bas derrière. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait faire de Jésus son Seigneur et son Sauveur ? Y a-t-il quelqu'un d'autre ? S'il y a quelqu'un que je ne vois pas au balcon, vous me faites signe. Que Dieu vous bénisse. Je vous vois juste à côté de l'autre également, vous deux, que Dieu vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Y a-t-il un changement qu'il ne s'attendait pas ? Afin qu'il voie des résultats pour lesquels il avait déjà désespéré. Et nous allons prier ensemble pour ceux qui donnent leur vie à Jésus. Disons ensemble, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je renonce à Satan, je renonce au monde, je renonce au dictat de la chair. Je veux te servir. Merci de me donner la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous étions heureux hier de bénir deux mariages. Je ne sais pas si les mariés sont là, mais je sais que dans l'habitude, ils ne sont pas là le jour après. Mais est-ce qu'ils sont là, les mariés ? Voilà, on a béni un mariage à 10 heures, on en a béni un autre à 13 heures. Mais je suis heureux de vous annoncer que la série n'est pas terminée. La semaine prochaine, le 15 juillet, nous allons bénir le mariage du pasteur Zeph et la sœur Jessica. Et le mariage du frère Yannick et la sœur Mamie. Venez avancer si vous êtes là. Ainsi que le frère, le 22 juillet, nous allons bénir le mariage de notre frère Zahabou et notre sœur Joël. Et Nixon et Dorcas. Venez, nous allons prier pour vous. Nous allons tendre nos mains vers eux et rappelez-vous, jusqu'à leur mariage, nous allons continuer à les présenter. S'il y a quelque chose qui peut nous empêcher de faire cette cérémonie, c'est à vous de nous le dire. Ils sont là, ok ? Mais maintenant, ce que nous allons demander, c'est que Dieu les accompagne dans la préparation, parce que des fois c'est très compliqué, très difficile, il y a beaucoup de défis, beaucoup de challenges. Mais comme c'est l'année de victoire, que Dieu leur donne la victoire là-dessus. Tendons nos mains vers eux et prions pour eux. Seigneur, nous remettons chacun d'entre eux entre tes mains et nous avons foi que tu les amèneras à concrétiser ce projet de mariage. Nous demandons que tu leur donnes la sagesse et l'intelligence et la révélation dont ils ont besoin, qu'ils soient comme Gédéon, des hommes et des femmes qui sont en mesure de donner la victoire, non seulement à leur propre couple, mais à leur famille et leur foyer. Fais d'eux des modèles et des exemples. Pourvois aux besoins qui sont encore manquants et permets qu'ils réussissent en tout, partout et pour tout, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout, on va clôturer notre culte. Je vous annonce que le pasteur Zeph est allé faire la présentation à Phila, d'où vient la sœur Jessica. Et donc la semaine prochaine, samedi, venez soutenir ces couples qui vont s'unir devant Dieu, devant l'Église et devant les hommes. Tenons-nous debout. Rendons grâce au Seigneur. Ouvre ta bouche et rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce. Rends grâce au Seigneur. Merci 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 Seigneur. Merci, Seigneur.